France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les polluants éternels, indispensables, clament les industriels. Comment s'en passer? Les députés débattent en ce moment d'une restriction des produits à base de ces PFAS. Les ustensiles de cuisine ne seront pas concernés. Nous serons à l'Assemblée nationale et nous verrons quel est l'enjeu pour notre santé. À suivre encore, un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson avec un médicament contre le diabète. Deux médecins français travaillent en ce moment à son élaboration. L'un d'eux sera notre invité dans les prochaines minutes. Nous parlons de la violente agression d'une collégienne il y a deux jours à Montpellier. Sa mère dénonce la conséquence du harcèlement scolaire. Nous l'écouterons. Nous verrons aussi comment réagir quand vous subissez du harcèlement de rue. Parler ou pas à la Russie, plus de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, la question revient. Hier soir, le ministre des Français des Armées a appelé son homologue russe. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Moscou. Sylvain, les Russes en profitent pour accuser la France.
Oui, Sébastien Lecornu voulait officiellement parler lutte contre le terrorisme et il s'est vu demander si les services français n'avaient pas organisé l'attentat du Crocus à Moscou. Voilà en résumé la conversation impossible qui s'est tenue hier entre Paris et Moscou.
A tout de suite pour vos explications. À 13h30, l'armée est-elle vraiment décidée à lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Nouvelle révélation le mois dernier, des élus demandent au ministre d'agir. On donne la parole à l'un des parlementaires qui porte ce combat et au contrôleur général des armées qui a accepté d'être avec nous. 01 45 24 7000 pour vos appels. 13h50, c'est la France. Nous consommons de moins en moins de salades et nous avons tort, nous dira Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Laurie demande Thriller, Michael Jackson, à Frédéric Pommier. Et puis dans une vingtaine de minutes, un festival de métal qui se prépare en Loire-Atlantique pour les enfants.
C'est une vraie volonté aussi d'ouvrir à cette sensibilité-là, d'ouvrir les enfants à autre chose que ce qu'on entend à la radio et ce qui passe à la télé, de leur montrer qu'il y a un truc qui est fun, qui s'appelle le métal et qui est bienveillant.
Du métal bienveillant, concept intéressant, nous dira le chanteur Aldebert. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ils sont dans tous nos objets du quotidien depuis les années 40. Vêtements, ustensiles de cuisine, peintures, jusque dans les prothèses et les sondes spatiales, car ils résistent autant à la chaleur qu'à la lumière. Mais les PFAS, c'est de ces substances dont on parle, sont aussi appelés aujourd'hui polluants éternels, d'où la volonté de restreindre leur utilisation et leur production. Et très vite, le tout est de savoir à quel rythme et à quelle échelle. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée nationale où le débat a lieu en ce moment. À l'initiative des écologistes, on va entendre avec vous dans un instant les arguments des uns et des autres. Mais il nous faut d'abord poser les enjeux de ce débat avec vous, Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Quels sont les effets de ces PFAS pour notre santé? Que sait-on précisément?
Eh bien, les travaux scientifiques commencent à s'accumuler, Jérôme, concernant ces poly- et perfluoroalkylés. Ce sont en fait des chaînes d'atomes qui combinent carbone et fluor quasi impossible à casser. Elles sont aussi très persistantes dans l'environnement, vous l'avez dit, et dans les organismes humains. C'est le revers de la médaille, en quelque sorte. Résultat, on en trouve dans le sang de tous les Français, estimation du programme Esteban de Santé publique France. L'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, alerte sur leur présence, notamment chez les enfants. Les PFAS se transmettent pendant la grossesse, au cours de l'allaitement. Deux PFAS les plus répandus, le PFOS et le PFOA, viennent d'être classés cancérogènes et cancérogènes possibles par le Centre international de recherche sur le cancer. Deux substances déjà interdites en Europe depuis 2009 et 2019, mais vous l'aurez compris, elles persistent en masse dans notre environnement et leurs effets sont désormais documentés. Une dizaine de pathologies, citons les cancers du rein, des testicules, des baisses de l'immunité, une hausse du cholestérol. L'EFSA estime que le risque principal, c'est la baisse d'efficacité de la vaccination.
Alors, le problème, Rémi, c'est qu'il existe une infinité de ces PFAS, tous sont dangereux?
Eh bien, la difficulté, c'est qu'il y a potentiellement autant de PFAS que d'applications industrielles. Le rapport du député Cyril Isaac Sibille en janvier dernier ne réussit d'ailleurs pas à définir leur nombre. Entre 250 et 10 000, les études scientifiques étayées ne portent que sur les PFAS connus. Pour les chercheurs, c'est une course contre la montre qui semble perdue d'avance. Impossible de démontrer a priori la nocivité de nouveaux PFAS. L'industrie les développe quand les précédents sont montrés du doigt. Pour les chercheurs, les indices sont pourtant là et les opposants estiment qu'il y a urgence à couper le robinet à PFAS. L'ONG Génération Future estime que 75 000 tonnes sont émises chaque année dans la nature en Europe.
Merci Rémi Brancato. Ce débat vit donc en ce moment à l'Assemblée nationale où est étudiée une proposition de loi qui vise à interdire ces substances dans toute une série de produits à partir du 1er janvier 2026. Claire Flochel, on vous retrouve. Claire, c'est un député écologiste qui porte ce texte. Est-ce qu'il a des chances d'être adopté ?
Oui, puisque le texte a été adopté en commission à l'unanimité la semaine dernière, mais depuis, il a été amendé, très amendé. Un amendement en particulier déchaîne les passions. Interdiction des ustensiles de cuisine qui contiennent des PFAS en 2026, dit le texte. Interdiction décalée en 2030, rectifie l'amendement déposé par la majorité. La science, c'est l'argument utilisé par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure.
Je crois au rôle des scientifiques. Le périmètre visé dans votre proposition de loi, il interdit des produits qui ne sont probablement pas toxiques, comme les fameux revêtements anti-adhésifs de cuisine. Mais voilà, vous vous êtes payé la poêle Tefal, vous êtes heureux.
L'entreprise Tefal, dont des centaines de salariés ont manifesté hier devant l'Assemblée pour marquer leur opposition au texte, on a discuté avec eux, rétorque le député écologiste Charles Fournier.
Nous avons pu avoir une discussion constructive. On peut tout à fait transformer les chaînes de production. On va continuer à faire des poêles. On va pas supprimer tous les emplois et d'un seul coup toutes les poêles. Par contre, il faudra sans doute changer ces chaînes. Et ça, il faut évidemment agir vite pour le faire.
Mais le couperet tombe, la majorité alliée à LR et ORN supprime purement et simplement l'interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine. La patronne des députés verts, Cyrielle Chatelain, laisse éclater sa colère.
Ce que vous venez de faire, c'est encore de faire gagner du temps à une industrie au détriment de la santé des Français. Nous le redisons, ce texte, c'est industrie et santé. Les seuls qui aujourd'hui garantissent et l'industrie et la santé, ce sont les députés écologistes et ce sont les députés de gauche.
Voilà Jérôme, les écologistes craignent au final un texte détricoté. 120 amendements ont été déposés en tout.
Merci Claire Flochel en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Johanna Gabric. Toujours dans l'actualité de la santé aujourd'hui, cette annonce extrêmement importante pour les 175 000 malades qui souffrent de Parkinson en France. Deux médecins et chercheurs français travaillent sur un nouveau traitement et ils viennent de prouver qu'un médicament utilisé à l'origine pour traiter le diabète pouvait ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Nous sommes en ligne avec l'un de ces deux médecins. Bonjour Olivier Rascol.
Bonjour.
Vous êtes neuropharmacologue au CHU de Toulouse. Vous co-dirigez cette étude avec Vassilios Messner qui est votre collègue du CHU de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée de travailler sur ce médicament ?
Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par dire que Vassilios Messner et moi-même, nous coordonnons l'étude. Elle a mis en jeu beaucoup d'autres éléments, en particulier le réseau français des centres experts Parkinson, le CHU de Toulouse qui en était le promoteur, le ministère de la Santé qui a financé une partie de l'étude, une fondation anglaise, un partenariat avec le laboratoire Sanofi qui a fourni le lixisénatine. Donc, c'est une initiative qui a démarré il y a quelques années. Donc, le point de départ, c'est que vous savez probablement, et les auditeurs aussi, qu'il existe des médicaments très efficaces pour corriger les symptômes dans la maladie de Parkinson. Depuis 50 ans, la DOPA a été mise sur le marché et elle remplace la dopamine qui manque, le cerveau des malades ne fabrique plus en quantité suffisante, ce qui altère leur mouvement. Le problème, c'est que la DOPA ne fait que masquer les choses et elle ne s'attaque pas à la cause de la maladie, qui est en fait, dans notre jargon, on appelle ça la neurodégénérescence, la mort prématurée des neurones qui fabriquent la dopamine. Et on recherche depuis des décennies des médicaments qui permettent d'améliorer la survie ou d'empêcher la mort de ces neurones. Alors, on s'est aperçu en épidémiologie que les diabétiques avaient un risque plus important que les non-diabétiques de développer une maladie de Parkinson et que certains diabétiques qui prenaient un certain type de médicaments contre le diabète, ces fameux médicaments qu'on appelle les agonistes GLP-1, dont fait partie le lixisénatine, avaient un risque moindre de Parkinson. Et quand on a regardé dans le cerveau de patients qui avaient donné leur corps à la science, on a observé qu'il y avait des anomalies dans la cascade moléculaire en lien avec ces mécanismes liés à l'insuline, et que quand on avait des modèles animaux, si on traitait avec ces médicaments, on réduisait le risque de survenue de la maladie dans les modèles. Donc on avait besoin de prouver chez les patients que si on les traitait avec un médicament comme le lixisénatide, qui a priori n'a pas été développé pour traiter le Parkinson et pour traiter le diabète, on pouvait vérifier que l'hypothèse était exacte. Et il y avait eu des collègues britanniques qui avaient fait une petite étude il y a quelques années qui donnait une indication dans ce sens avec un médicament de la même classe qui s'appelle l'exenati.
Donc là, on agit sur les causes. C'est ça l'avancée, en fait, Olivier Rascol.
L'avancée majeure, c'est ça. C'est-à-dire, si vous avez une piscine qui fuit, vous pouvez mettre le tuyau d'arrosage pour remonter le niveau. C'est ce que fait la DOPA, mais c'est mieux de s'intéresser à la cause de la fuite. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le lixizénatide sur la mort des neurones dans le cerveau des parkinsoniens.
Et les derniers résultats sont très encourageants.
Les résultats sont encourageants. On a demandé à des patients de participer à un essai clinique ou par tirage au sort. La moitié ont reçu le lixizénatide, l'autre moitié a reçu du placebo. Et on les a évalués, on a évalué la sévérité de leurs symptômes pendant un an. Et au bout d'un an, ce qu'on a constaté, c'est que des scores qui mesurent la sévérité des symptômes moteurs, eh bien, dans le groupe lixizénatide, les scores n'avaient pas bougé après 12 mois de suivi, alors que dans le groupe des patients qui avaient leur traitement standard plus le placebo, eh bien, le score s'était aggravé de quelques points, et c'est le reflet de la continuation de la mort neuronale sous-jacente.
Il y a tout de même des effets secondaires ?
Il existe, ils sont connus d'ailleurs avec tous ces médicaments de cette classe chez les diabétiques. Il y a des effets digestifs à type de nausées. Une partie, 40% des patients dans cette étude ont présenté ce type d'effets indésirables. On a diminué la dose et finalement, ça leur a permis de continuer le traitement sans avoir à l'interrompre. Et apparemment, une dose un peu plus faible n'a pas empêché le médicament d'exercer l'effet qu'on recherchait, c'est-à-dire un effet neuroprotecteur. Il y a aussi des effets indésirables de type perte de poids. Et cette classe de médicaments, elle est évaluée aussi pour traiter de l'obésité. Effectivement, chez les parkinsoniens, c'est pas un effet qu'on recherche. Et dans notre étude, il n'y a pas eu de modification significative du poids.
Merci à vous, Olivier Rascol, pour toutes ces précisions. On reviendra vers vous, évidemment, pour évoquer avec vous l'avancée de l'élaboration donc de ce nouveau médicament. Mais c'était important d'avoir ces dernières informations avec vous. Je rappelle que vous êtes neuropharmacologue au CHU de Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà un sujet qui concerne indirectement notre invité. Quel tarif pour les hôpitaux, les cliniques et les médecins dans les mois qui viennent? Les négociations avec l'assurance maladie sont en cours et deux syndicats de médecins libéraux viennent de claquer la porte. Ils dénoncent un vol du secteur libéral au profit de l'hôpital public, car pour les cliniques privées, la revalorisation annoncée n'est que de 0,3%. Alors en solidarité, ces médecins syndiqués annoncent qu'ils vont se joindre à la grève du 3 juin. Jérôme Marty est le président de l'un de ces syndicats, l'UFML.
Si nous avons décidé de suspendre les négociations conventionnelles, c'est pour répondre au sabotage de celles-ci par le gouvernement. En prenant la décision unilatérale, sans concertation, de donner aux établissements de soins privés, hôpitaux privés et cliniques privées, une augmentation de seulement 0,3%, il est impossible de négocier dans ces conditions-là. Ces gens-là sont en train de saboter à la fois les négociations, mais plus grave, de saboter le système sanitaire français, parce que l'activité des cliniques privées ne peut pas être faite par l'hôpital public. Je rappelle que plus de 80% de la chirurgie ambulatoire, par exemple, est faite par les cliniques privées. En tout état de cause, nous rentrons dans un mouvement dur de fermeture totale et globale des établissements privés à partir du 3 juin.
Le président du syndicat de médecins UFML avec Hugo Ossilou. Conséquence de ce départ, les négociations sont reportées. Je vous ai parlé ici même hier de l'agression extrêmement violente de cette jeune collégienne à Montpellier. C'était mardi après-midi. La jeune fille de 13 ans, Samara, a été frappée par d'autres jeunes à la sortie de son établissement scolaire. Elle est toujours hospitalisée. Aujourd'hui, elle est sortie du coma. Elle doit normalement être entendue aujourd'hui par les enquêteurs. Sa mère, Asiba Rajoul, dénonce aujourd'hui le harcèlement dont était victime sa fille. Elle dit aussi avoir alerté le collège mardi d'un risque d'agression.
J'ai appelé la vie scolaire pour les empêcher de faire sortir ma fille du collège. Malheureusement, l'information n'avait pas été... Donc ils ont demandé à ma fille de sortir et elle s'est retrouvée... Une élève qui l'a pris par la main et qui l'a ramené vers tout le groupe qui l'a lynché, en fait. Il y a plusieurs personnes du collège qui ont participé au lynchage de ma fille. J'aurais aimé que le collège me soutienne, en fait, parce qu'au final, j'ai toujours soutenu, moi, les professeurs. Je cautionne aucune violence et j'aurais aimé qu'on me soutienne en eux-mêmes, en prenant l'initiative de même de fermer le collège. Je me sens désemparée. Je me sens impuissante pour ma fille. Elle n'a pas essayé de protéger. Non, elle n'a pas essayé de protéger.
Témoignage recueilli par France Bleu Hérault. Trois mineurs sont en garde à vue depuis hier dans cette enquête. Là, il s'agit de violence et surtout de harcèlement au quotidien. C'est la semaine de lutte contre ce harcèlement de rue. Les trois quarts des femmes disent en avoir déjà été victimes. Et ce n'est pas toujours simple de réagir. Alors cette semaine, la Fondation des Femmes mène des ateliers de sensibilisation. Ça se passe dans différents endroits de Paris. La formation s'intitule Stand Up. François Vintéjou, vous l'avez suivi dans le 20e arrondissement de la capitale.
À l'intérieur d'un bus de la RATP, deux collégiennes se glissent dans la peau de témoins de harcèlement. Et Clara, la formatrice, joue la victime.
Une personne me touche la main alors que je me tiens à la barre du bus. Qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là ?
Peut-être faire tomber mon sac par terre devant la victime. Peut-être que ça détournerait l'attention du harceleur et du coup que ça permettrait à la victime de s'extirper. Oui.
Distraire, cela fait partie de la méthode des 5D avec déléguer, documenter, dialoguer ou encore diriger pour prendre à partie le harceleur quand on est victime.
Excusez-moi, vous, la personne avec le pull bleu, est-ce que ça vous dérangerait là d'enlever votre main que vous ne cessez de remettre sur la mienne ? Ça va créer un peu la honte et les autres personnes vont se sentir concernées par ce qui se passe, vont lever les yeux.
Car aujourd'hui, trop peu de témoins agissent, seulement 25% d'entre eux selon la Fondation des Femmes.
Les personnes ont peur qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'effet témoin, c'est que tant qu'il n'y a pas une personne qui réagit, personne ne réagit. Malheureusement, il y a vraiment un truc d'effet domino.
Il y a donc urgence à sensibiliser, d'autant que les impacts ne sont pas négligeables, sur le plan financier notamment, comme l'explique Emma, l'autre formatrice.
Ça peut être justement prendre le Uber au lieu de prendre les transports. Ça peut être aussi tout simplement quand on sort plus de chez nous, on se met en arrêt maladie et donc on gagne un petit peu moins de salaire à terme.
Ajoutez à ça l'impact psychologique. Près d'une femme sur deux adapte ses trajets du quotidien pour éviter une situation de harcèlement.
Et cette formation se poursuit aujourd'hui. À la cour d'assises de Paris, c'est l'heure du verdict au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. 5 morts, 11 blessés en décembre 2018. 4 hommes sont accusés d'avoir joué un rôle dans la préparation de l'attaque. Ce matin, l'un d'eux a dit ses regrets avant que la cour ne se retire pour délibérer.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Cela fait près d'un an et demi qu'il n'y a plus eu de contact entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Je n'ai pas changé de numéro, disait en décembre dernier le président français. Comprenez, si le président russe veut me parler, il sait où me trouver. Mais hier, c'est bien le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, qui a appelé son homologue russe pour parler de l'attentat de Moscou. C'était il y a 2 semaines et lui rappeler qu'il n'y a aucun lien entre cet attentat et l'Ukraine. Réponse de Moscou hier, Kiev ne fait rien sans les Occidentaux. Nous espérons que les services secrets français ne sont pas derrière cela. Une phrase qui a fait réagir le président Emmanuel Macron, c'était il y a quelques minutes.
Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens, ça ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. On n'a absolument pas à nous justifier, d'ailleurs nous ne nous justifions pas, mais on a à faire un travail conjoint avec tous ceux qui sont touchés par le terrorisme. Et quand on dispose d'informations, d'avoir les échanges techniques, je pense que ça, c'est notre responsabilité.
Emmanuel Macron, au micro de Simon Le Baron. Sylvain Tronchet, on vous retrouve en direct de Moscou. Sylvain, cet attentat de Moscou, rappelons-le, a été revendiqué par l'État islamique, mais les Russes ne perdent pas une occasion de mettre en cause les Occidentaux.
Oui, et c'est en fait, il faut rappeler le contexte de ce coup de fil. Sébastien Lecornu voulait effectivement parler lutte contre le terrorisme islamiste, officiellement, mais il s'est en fait heurté au mur de la propagande russe qui affirme que cet attentat a été commandité par l'Ukraine et les Occidentaux, et il devait le savoir, puisque rien qu'hier, un personnage clé du pouvoir, Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité, disait ceci.
Les auteurs du massacre du Crocus City Hall ont été financés par l'Ukraine. Or, on sait que le régime de Kiev n'est pas indépendant, mais qu'il est contrôlé par les Anglo-Saxons. Les Occidentaux n'essaient même pas de cacher leur participation à la planification et à l'organisation des attaques terroristes.
Et quand il dit cela, Nikolaï Patrouchev fait référence au fait que les États-Unis avaient émis une alerte début mars sur la possibilité d'un attentat en Russie. Les Américains avaient apparemment intercepté les informations du côté de l'État islamiste et les avaient rendues publiques. Mais pour Moscou, c'est au contraire la preuve qu'ils sont impliqués parce qu'ils étaient au courant. Dans ces conditions, on se doute bien que les dénégations de Sébastien Lecornu hier face à Sergueï Shoigu n'ont pas dû faire beaucoup vaciller le ministre russe de la Défense, d'autant plus que la France est clairement dans le viseur de la Russie actuellement, suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'intervention de troupes au sol en Ukraine. D'ailleurs, à Moscou, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirmait hier que Paris est en train de préparer un bataillon de la Légion étrangère pour aller en Ukraine.
Merci Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. Toujours dans la série coup de fil diplomatique sensible, l'Américain Joe Biden et l'Israélien Benjamin Netanyahou doivent se parler au téléphone aujourd'hui, 3 jours après la frappe israélienne sur des humanitaires à Gaza. Frappe qui a fait 7 morts et déclenché une vague de condamnations internationales. Illustration au Royaume-Uni. 3 Britanniques figurent parmi les victimes de l'armée israélienne lundi et de plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'arrêt des exportations d'armes contenant des pièces fabriquées au Royaume-Uni. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Richard, des centaines de spécialistes du droit, dont d'anciens juges de la Cour suprême, réclament cet arrêt dans une lettre ouverte.
Oui, c'est un document de 17 pages signé par plus de 600 experts juridiques et des mots forts de la part d'universitaires, d'anciens juges et d'avocats. Ils demandent au gouvernement d'éviter la complicité du Royaume-Uni dans de graves violations du droit international, y compris de potentielles violations de la Convention sur le génocide. Pour cela, ils réclament la fin des exportations d'armes vers Israël. Parmi les signataires de ce texte, Jonathan Sumption, ancien juge de la Cour suprême.
Israël a commencé cette guerre à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était vraiment effroyable. Mais dans le cadre du droit international sur la guerre, le fait d'avoir été provoqué ou attaqué ne signifie pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne dit pas que vous pouvez massacrer sans discernement des civils et des enfants. Il y a des limites dans ce que l'on peut faire, même pour se défendre.
Et une enquête d'opinion qui vient d'être publiée va dans ce sens également. Selon l'Institut YouGov, 56% des Britanniques veulent que leur pays arrête la vente d'armes à Israël. Un sondage effectué avant la frappe aérienne qui a tué les 7 humanitaires, dont les 3 Britanniques. Le Premier ministre Rishi Sunak affirme, lui, qu'il a toujours été clair sur le fait qu'Israël doit respecter le droit international.
Richard Place, correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Les lettres blanches sur fond rouge et puis le liseré vert. La marque Lacroix est bien connue des consommateurs français, célèbre pour son eau de Javel. Mais le groupe a décidé de fermer sa dernière usine de fabrication en France. Elle est située à Rieux-la-Pape, dans le département du Rhône. 104 salariés, le propriétaire. Le groupe américain de produits d'hygiène Colgate Palmolive veut désormais produire ailleurs, en France et en Belgique. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Les salariés de Lacroix manifestaient contre cette décision ce matin.
Oui, ici devant l'usine, ils sont une 30aine à tenir un piquet de grève depuis une semaine. Motif, l'annonce de cette fermeture d'un site qui a 120 ans avec 104 licenciements à la clé et la production délocalisée en Belgique. Les volumes ont baissé, reconnaît le délégué CGT Jean Martins, mais le site reste viable.
L'année dernière, on a encore fait 1 700 000 de bénéfices qui ont été redistribués aux actionnaires en Amérique. L'activité, elle peut continuer si on a la volonté de le faire. Aujourd'hui, la fermeture qui a été demandée et annoncée par notre patron Colgate Palmolive, elle est simplement pour gagner plus d'argent. Pas parce qu'elle perd de l'argent, c'est pour gagner plus d'argent.
Ici, la moyenne d'âge est de 54 ans, d'où l'inquiétude de ces deux anciens, Florent Marsande et Noël Cara.
Il y a une grande partie du personnel qui a fait quasiment toute sa carrière ici. Ce n'est pas une usine où il y a beaucoup de jeunes, donc pour rebondir, c'est très difficile.
Cotel était l'entreprise de Rieux. J'ai 34 ans à Cotel, j'aurai 59 ans. J'ai ma femme qui travaille à France Travail, donc elle sait très bien que c'est un âge très difficile, pratiquement impossible à retrouver un travail. Après autant d'années, je dirais, de confort dans une entreprise, on n'a plus l'habitude de se vendre.
Vu leur âge, les salariés ont demandé de doubler l'enveloppe de négociation. Ce matin, la direction a refusé.
Merci Christophe Vincent pour ce reportage en direct de Rieux-la-Pape. Les élèves de terminale ont finalement jusqu'à ce soir pour peaufiner leur lettre de motivation. La date limite du dépôt de candidature sur la plateforme Parcoursup a été décalée de 24 heures hier soir. Tout cela en raison d'un problème sur les serveurs informatiques. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Cette panne a duré 2 heures hier soir.
Oui, la plateforme était inaccessible hier soir entre environ 22h et 23h45, soit juste avant l'heure de clôture. Les candidats avaient en effet jusqu'à 23h59 pour confirmer leurs vœux et finir de remplir leur dossier, notamment les fameuses lettres de motivation. Mais les serveurs ont brutalement été indisponibles. Le ministère de l'Enseignement supérieur affirme que ce n'est pas un bug dû à un excès de connexion. Parcoursup est parfaitement calibré pour fonctionner à plein régime. L'hypothèse forte serait une cyberattaque. Mais impossible de le confirmer à ce stade. Des investigations sont en cours. Le ministère assure néanmoins qu'il n'y a eu aucune perte ni aucune fuite de données. L'accès au site a été rétabli un peu avant minuit, mais pour ne pas léser les retardataires, un délai supplémentaire, vous le disiez Jérôme, a été accordé. Ils ont jusqu'à ce soir 22h pour finaliser leur candidature. Les quelques 700 000 élèves de terminale et les étudiants en réorientation devront ensuite patienter jusqu'au 30 mai pour recevoir les premières réponses.
Sonia Princey, le président de la commission d'enquête sur les chaînes de télévision TNT, Quentin Bataillon, fait un petit mea culpa ce matin. On a vu le député mardi soir sur le plateau de l'animateur Cyril Hanouna critiquer un autre animateur, Yann Barthès, tous deux entendus il y a quelques jours par sa propre commission. J'assume ma venue dans l'émission, dit-il aujourd'hui, mais ses critiques contre Yann Barthès, ajoute-t-il, étaient une maladresse. Le député de la Loire avait été vivement critiqué hier, y compris dans son parti, pour ses propos, alors que sa commission n'a pas encore rendu son rapport. Et vous, est-ce que vous emmènez votre enfant de 6 ans à un concert du groupe de métal Rammstein? Sans doute pas, ce qui ne veut pas dire que les enfants ne puissent pas plonger dans l'univers du métal et du rock. Voilà pourquoi le festival dédié à cette musique, le Hellfest en Loire-Atlantique, va organiser à la fin du mois de juin un concert spécial petit format. Le Hellfest Kids, ce sera la veille de l'ouverture du festival pour les grands, gratuit, réservé aux élèves de CP de la région, plus de 850 enfants. Marius Delaunay.
Le Hellfest Kids, c'est une idée qui germait dans l'esprit des organisateurs depuis plus d'un an déjà pour rassembler les plus jeunes. C'est qu'il y a une vraie demande. Marie et Sandra peuvent témoigner. Elles sont mamans d'élèves à Gétigné.
Ils vivent le Hellfest en fait. Ils le vivent, ils en rêvent. Ils veulent y aller. Et pour eux, c'est un beau projet quoi.
C'est un beau cadeau de fin d'année scolaire.
Plus de 850 élèves de CP sont donc conviés pour la grande première. Éric Perrin, alias Ricou, le responsable de la communication chez Hellfest Productions.
On a choisi les CP parce qu'on est sur un public qui est quand même assez sensible à la musique. On imagine que des parents vont venir avec le frère ou la sœur. Voilà, l'idée, c'est aussi de partager un moment plusieurs et en famille.
Et il y aura 2 accompagnants autorisés pour chaque élève pour découvrir les animations pas encore dévoilées. Puis évidemment, la partie musique. Cette année, c'est le chanteur pour enfants Aldebert qui fera le concert d'ouverture.
Me retrouver au Hellfest, j'ai l'impression de me retrouver dans les posters que j'avais quand j'étais ado. C'est une vraie volonté aussi d'ouvrir à cette sensibilité-là, d'ouvrir les enfants à autre chose que ce qu'on entend à la radio et ce qui passe à la télé. De leur montrer qu'il y a un truc qui est fun, qui s'appelle le métal. Et qui est bienveillant.
De la bienveillance justement aussi, hein, pour ne pas non plus casser les tympans des plus jeunes. Durant les concerts, tout sera fait pour ne pas dépasser les 100 décibels.
Du gros son, que les voisins du dessous cassent leur palais sur le plafond. Du gros son.
Du gros son avec un S, bien sûr. Vous aurez reconnu le chanteur Aldebert au micro de France Bleu Loire-Océan. Je reviens sur l'inauguration ce matin du centre aquatique olympique. C'était à Saint-Denis. On retiendra 2 choses. Emmanuel Macron dit que la chanteuse Aya Nakamura aura tout à fait sa place lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis juste derrière le président de la République, il y a eu une image très impressionnante. Un plongeur a fait une chute en maillot tricolore. Ce plongeur s'appelle Alexis Gendard. Il a 26 ans, on a eu très peur pour lui quand on a vu les images. Finalement, blessure légère, il prend cette chute avec le sourire.
J'ai eu une faiblesse sur ma jambe, je suis tombé dans l'eau, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'était aux yeux de toute la France et devant M. le Président, donc c'est dommage, mais rien de bien grave, je ne me suis pas fait mal. C'est un peu impressionnant, mais voilà, c'est des choses qui nous arrivent, nous plongeurs, tous les jours. Les gens s'en rendent compte aujourd'hui, mais nous, c'est un peu notre quotidien. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui arrivent. On s'amuse pas à faire ça toute la journée, évidemment, hein, mais voilà, c'est rien de grave. Et puis voilà, on fera avec. Ça m'empêchera pas de performer pour les Jeux Olympiques.
C'est un peu la honte, mais bon, moi, c'est un moment que j'ai passé quand même un bon moment globalement. Et puis ça fait parler de notre sport parce que
parce que bah franchement on attendait cette piscine depuis des années, même depuis toujours, donc le fait d'avoir cette inauguration, ça reste quand même quelque chose de très bien qui a été on va dire rythmé et animé par cette chute.
L'humour d'Alexis Gendard au téléphone de William Delesseux, il nous fallait bien une chute pour conclure la première partie de ce 13-14. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'armée. Nouvelle affaire il y a quelques semaines. Des parlementaires demandent au ministre d'agir. Le patron de la cellule d'écoute de l'armée leur répond dans un instant. Et bien sûr, vous nous appelez 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous sommes avec les frontaliers lorrains dans le nord de la Moselle. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribault et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, vous nous racontez des salades aujourd'hui.
Mais non,
si
Jérôme, je puis dire. Pas du tout.
Je puis dire.
La salade, c'est du sérieux, c'est du goût. Et c'est à se demander pourquoi on s'en désintéresse.
Mais pas vous. Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Elle est également comédienne. Il s'agit de Laurie. Succès phénoménal au début des années 2008, au début des années 2000.
Oui.
Des centaines de... Pourquoi 2008? D'où ça sort? Des centaines de concerts, des millions de disques vendus. Et Laurie nous parlera de celui qui lui a donné envie de faire ce métier, Michael Jackson.
À tout à l'heure.
Et chaque fois mourir un peu. Le nouveau roman de Karine Gibel vient de paraître. Grégory, infirmier sur les terrains de guerre, monte au front sans armes, ni gilet pare-balles. Chaque victime sauvée est une victoire sur la folie des hommes. Mais il prend de plus en plus de risques, jusqu'à celui de trop. Et chaque fois mourir un peu, de Karine Gibel, un roman qui vous marquera à jamais, aux éditions Récamier.
Écoutez bien, le bassin d'Arcachon en haute saison. Et maintenant, le bassin d'Arcachon le reste de l'année. Vous avez entendu la différence? Non? Nous non plus.
Bassin d'Arcachon, un monde à part, un monde à partager.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Soleil donc au sud et averses au nord.
Oui, sur les régions du nord, on a des éclaircies, des nuages, des averses avec du vent. Alors des averses plus fréquentes et parfois orageuses sur le Grand Est. De nouvelles pluies gagnent progressivement la Bretagne, puis le nord des Pays de la Loire et la Normandie. Les crues se poursuivent sur le nord-est. La vigilance reste orange sur Lyon et l'Aube.
Il y a plus de rouge.
Non, il n'y a plus de rouge. Sur les régions du sud, de bons moments de soleil au menu, hein, surtout du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté thermomètre, la hausse se poursuit. Un petit air d'été se dessine par le sud. Comptez 14 à 18 degrés au nord, 18 à 23 en allant vers la région Rhône-Alpes et la Méditerranée et 23 à 25 sur le sud-ouest. Cette chaleur précoce, elle va remonter vers le nord entre demain et samedi, qui sera très certainement le pic de cet épisode.
Oui.
Et la pluie reviendra par l'ouest dimanche, entraînant une belle baisse des températures.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'était en 2014. Deux journalistes documentent la gestion déplorable des cas d'agression sexuelle dans l'armée. Leur livre s'intitule « La guerre invisible ». Dans la foulée, le ministre Jean-Yves Le Drian crée la cellule Thémis, chargée de recueillir les témoignages des victimes et de veiller à l'application de sanctions. 10 ans plus tard, la séquence est presque la même. Le journal Le Courrier de l'Ouest révèle le mois dernier qu'une ancienne militaire de la Marine nationale, Manon Dubois, a été victime de violences sexuelles à plusieurs reprises de la part d'un même militaire qui au final a été sanctionné de 10 jours d'arrêt mais a évité toute poursuite judiciaire. Devant le tollé, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, fait publier une circulaire sur la conduite à tenir en cas d'agression sexuelle. La députée Renaissance du Maine-et-Loire, Laetitia Saint-Paul, qui soutient la jeune femme, dit avoir reçu depuis ces derniers jours plus d'une centaine de signalements. Alors cette fois, les choses vont-elles changer? On en parle ensemble avec vous, 01 45 24 7000, et avec nos invités que je vous présente. Grégory Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur écologiste du Maine-et-Loire et vous portez ce sujet avec votre collègue Laetitia Saint-Paul, dont je viens de parler, et qui est actuellement reçue par la secrétaire d'État, Patricia Mirallès, pour parler de ce dossier. Avec nous également, j'ai parlé de la cellule Thémis, c'est vous qui la dirigez, Thibaut de Lafourcade, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes également contrôleur général des armées. Grégory Blanc, je vous ai entendu la semaine dernière prendre la parole au Sénat, interpeller la ministre sur cette question, et vous avez dit les problèmes d'agression sexuelle ou raciste dans l'armée sont systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Systémique, ça veut dire que on a
la mise en place d'un système qui, à un moment donné, conforte le fait qui bloque l'évolution de la prise en charge pour avoir une évolution comme on l'a eu dans d'autres secteurs de la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une culture qui, notamment du...
C'est quoi cette culture ?
Ça veut dire que il faut aujourd'hui, on a affaire à un problème grave. Je le dis parce que à la fois ça concerne des histoires tragiques de personnes, mais aussi parce que ça concerne notre armée et on a besoin d'une armée forte, c'est-à-dire une armée exemplaire, a fortiori dans la période. Donc la question qui nous est posée, c'est comment arrive-t-on dans cette institution dont on a besoin à opérer les évolutions qu'on a eues dans d'autres secteurs et dans d'autres pans de la société, où aujourd'hui on arrive à avoir une prise en charge qui est réelle. Aujourd'hui, quand vous regardez les quelques sanctions qui sont remontées, on voit un décalage, c'est le cas de l'affaire de Manon Dubois, un décalage extrêmement important entre les sanctions dans l'armée et les sanctions qu'on a, j'allais dire, au civil, pour le dire rapidement, c'est-à-dire dans le droit commun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comment peut-on expliquer que des agresseurs qui sont identifiés, reconnus, restent dans l'armée quand des victimes elles-mêmes sont contraintes à la démission ? Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on a un certain nombre de points, notamment du code militaire, mais pas que, qu'il faut changer pour justement faire en sorte qu'on arrive à mieux protéger les victimes et qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une sanction juste pour les agresseurs.
Violence sexuelle systémique, dit Grégory Blanc. Je voudrais avoir votre réaction, Thibaut de Lafourcade, sur ce constat qui vient d'être fait.
Alors, je ne peux pas laisser dire que ces problèmes sont systémiques au sein de l'institution militaire, pour une raison toute simple. Tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, voire le racisme, tout ce qui est discrimination, porte tout simplement atteinte à ce qui fait la cohésion de l'institution militaire, à ce qui constitue sa fraternité d'armes, c'est-à-dire l'essence même de nos armées, et le garant de son efficacité opérationnelle. Donc c'est un problème majeur chez nous que de maintenir cette cohésion et de pouvoir traiter ces problèmes-là.
Des cas non traités, ça veut dire qu'on porte atteinte à l'efficacité de l'armée. Donc il y a une question de respect des victimes et de protection des victimes, mais il y a aussi une question pour l'armée de cohésion et donc d'efficacité.
Exactement, d'efficacité collective. Mais la cellule TEMIS, pour répondre à monsieur le sénateur, a été mise justement en place pour pouvoir recueillir tous ces signalements qui ne remonteraient pas par le biais normal de la chaîne hiérarchique, et permettre aux victimes de s'exprimer. Là où je le rejoins, c'est que dans les constats des cas qui apparaissent et qui sont médiatisés, on voit bien que les victimes sont probablement insuffisamment protégées. Et le but, c'est d'améliorer leur protection, de leur garantir en fait qu'elles peuvent faire remonter les cas dont elles ont été victimes, les signalements, en n'ayant pas de conséquences néfastes sur leur déroulé de carrière.
On va prendre le cas concret de Manon Dubois dans une minute. Un dernier mot, Thibaut de Lafourcade. Combien de signalements reçus l'an dernier à la cellule TEMIS ?
Alors l'année dernière, on a eu un peu plus de 700 personnes qui ont contacté la cellule, dont 200 environ qui concernent les faits de harcèlement, violence sexuelle.
Combien d'enquêtes suite à ces
59 enquêtes à la demande des plaignants. C'est-à-dire que sur les 200 qui nous ont contactés, 59 ont souhaité lever l'anonymat et qu'une enquête administrative soit conduite derrière.
Combien de sanctions prononcées pour ce type de fait, violence sexuelle et sexiste dans l'armée l'année dernière ?
Année après année, entre un tiers et la moitié des cas donnent lieu à des sanctions, c'est-à-dire que dans les autres cas, eh bien, on n'arrive pas à prouver la matérialité des faits, c'est souvent du parole contre parole.
Ça veut dire une vingtaine de sanctions, un tiers de 60 ?
Ça veut dire entre 40 et 50 sanctions. Voilà.
Ah, 40 et 50 sanctions sur 270 000 militaires, civils et militaires, 270 000 personnels civils et militaires dans l'armée pour reposer les ordres de grandeur. On prend donc un cas concret si vous le voulez bien. J'ai parlé de Manon Dubois il y a une minute. Elle est donc militaire. Elle a dénoncé des agressions sexuelles en février dernier lorsqu'elle était cuisinière. Son agresseur, lui, était électricien. Ça se passe sur un navire lors d'une mission. Nous sommes d'abord, là, on va l'écouter, en 2019. Elle a raconté cela à notre collègue de France Info, Gaëlle Joly.
Bah en fait, ça pouvait aller de la simple main aux fesses ou l'effleurage à tenter de m'embrasser de force ou me plaquer contre mon plan de cuisine et se coller à moi et frotter son sexe contre le mien, enfin ce genre de choses. C'était au minimum, je dirais, une, deux fois par semaine pendant un an et demi du coup. C'est comme si j'étais là sans être là et j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à agir, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Je savais que c'était pas normal, mais il y avait une partie de moi qui me disait « mais non, Manon, c'est pas si grave que ça ».
Et ensuite, arrive octobre 2021, c'est ça ?
Je vois son nom de famille en face de ma porte et je me dis « non, mais c'est pas possible, c'est forcément un autre qui s'appelle comme ça ». Et je le croise à bord de ce bateau dans une coursive, un couloir.
Et là, il recommence. Et
donc du coup, c'est un soir. Je sais que je me retrouve à un moment donné enfermée dans un local avec lui. Il se passe pour moi la chose la plus grave qui s'est passée. La pire, puisque deux jours après, je me suis effondrée et j'ai dû parler, en fait. Du coup, ça m'a amenée à voir le commandant, le médecin, le second. On l'a entendu moi, on l'a entendu lui. Le capitaine d'armes du bateau me dit « bah oui, mais c'est qu'il était amoureux ». J'avais envie de lui répondre très fortement à ce moment-là. C'est vrai que ça lui donne le droit de faire ce qu'il a fait.
Quand vous découvrez après le jugement là, en décembre dernier de votre agresseur, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Oui, en fait, je l'ai clairement trouvé faible. Je me dis « bah j'avais raison de m'attendre à rien au final ».
600 euros de dommages et intérêts, une obligation de suivre un stage de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Voilà la condamnation finale. On va y revenir, mais il y a plusieurs éléments qui interpellent dans ce témoignage. D'abord, la réaction de la hiérarchie à bord Thibaut de Lafourcade. Moi, je me demande s'il y a des formations, en fait, pour les responsables hiérarchiques dans l'armée sur ce type de sujet.
Oui, il y a des formations. C'est aussi notre rôle, la cellule Thémis, de former et de sensibiliser. Plus de 50 000 personnes au ministère sensibilisées l'année dernière. Et la formation d'un certain nombre de personnels relais qui sont dans toutes les unités, ce qu'on appelle les référents égalité-mixité, qui sont là pour assister les personnes victimes de ce type d'agissement. Pour les aider à signaler leurs faits, à les faire remonter, qu'ils soient pris en compte et qu'ils puissent être traités.
Est-ce qu'il faut une grille plus claire des sanctions en cas d'agissement, Grégory Blanc, ou est-ce qu'il faut carrément changer le code militaire ? Autrement dit, est-ce que les sanctions, elles existent, elles sont là, et il faut les prononcer, ou bien est-ce qu'il faut changer les choses du point de vue de la loi ?
Premier point, aujourd'hui, les sanctions, la cellule Thémis est capable de nous en donner le nombre, vous l'avez cité tout à l'heure, mais on n'a pas l'éventail. On ne sait pas quelles sont les sanctions. Dans le cadre de l'affaire de Manon Dubois, on a quelques jours de mise à l'arrêt et par le juge, l'obligation de suivre un stage. Je rappelle que dans le droit commun, quand il y a agression sexuelle, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement et de plusieurs milliers d'euros d'amende. Là, on voit bien qu'il y a une disproportion qui choque. Pourquoi on en arrive là ? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens dans la hiérarchie qui n'ont pas suivi les consignes qui sont dans les circulaires, qui ont été mis en place depuis 10 ans. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Depuis 10 ans, il y a des systèmes de protection. Et c'est bien la hiérarchie et le fonctionnement de la hiérarchie qu'il faut qu'on interroge, encore une fois, avec gravité, pas en faisant n'importe quoi, mais il faut qu'on questionne cette culture. S'il n'y avait qu'une affaire, 2 affaires, 3 affaires. Mais non, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la parole se libère, il y a un système de protection, d'autoprotection, qui mélange à la fois des personnes et, l'institution. Mmh. Et donc, on a de la confusion. Il faut qu'on arrête avec ces confusions. C'est pour ça qu'il faut qu'on objective d'un côté les dysfonctionnements et qu'on prenne des mesures, enfin, qui soient des mesures structurelles. C'est pour ça que moi, j'ai posé, en lien avec Laetitia Saint-Paul, que vous avez cité tout à l'heure, un certain nombre de questions auprès du ministre des Armées, pour qu'on puisse avoir les éléments. Une fois qu'on aura ces éléments, effectivement, alors là, il faudra qu'on agisse à 4 niveaux. 1, sur la prévention. 2, sur les questions RH, notamment de sanctions. 3, sur le lien avec le ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui, vous avez une composition pénale, parce que le ministère de la Justice suit le rapport des armées, et il n'y a pas forcément de contradictoire dans le cadre du pénal. Et puis 4, effectivement, qu'on puisse regarder les mesures structurelles à mettre en place au sein des armées, notamment au niveau des écoles militaires.
Alors justement, la relation avec le ministère de la Justice, je reviens à ce qui est arrivé à Manon Dubois. Son agresseur a échappé à un procès grâce à ce qu'on appelle une procédure de composition pénale. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai découvert ça. Ça se passe sur proposition de la hiérarchie militaire, ça doit être validé par le parquet. En fait, c'est une alternative aux poursuites. Ça évite aux militaires une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ce qui voudrait dire une exclusion de l'armée. Et donc, cette décision, 600 euros de dommages et intérêts, obligation de suivre un stage de lutte. Est-ce que vous pensez, Thibaut de Lafourcade, qu'il faut continuer avec ce type de procédure ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors la procédure, cette procédure spécifique vise à permettre à la justice de prendre en compte les spécificités du métier militaire, tout simplement, qui sont par certains aspects exorbitantes du droit commun. Du coup, la justice sollicite pour les affaires qui impliquent des militaires en service systématiquement l'avis du commandement. Mais elle ne sollicite que l'avis du commandement. Après, elle est libre de la décision qui lui revient. Il ne m'appartient pas ici.
La justice aurait pu dire on poursuit et il y aura un procès. D'accord. Bien sûr. Mais en tout cas, d'accord. Mais le commandement aurait pu dire on souhaite qu'il y ait un procès et ne pas donner un autre avis. Ce n'est pas ce qui a été fait en l'espèce. Paul nous appelle de Bretagne. Bonjour Paul.
Bonjour.
De Saint-Brieuc précisément. Nous vous écoutons.
Eh bien, ma question c'est de savoir si le fait qu'il y ait de plus en plus, à ma connaissance en tout cas, de cadres féminins dans l'armée peut être une façon d'envisager de meilleures solutions sur quant aux problèmes qui sont soulevés d'agressions sexuelles.
Merci Paul pour cette question. Je crois que c'est 15% de femmes dans notre armée, ce qui en fait l'une des armées les plus féminisées au monde. Thibaut de la Forcade, est-ce que ça entraîne un changement, qu'il y ait davantage de femmes cadres dans l'armée ?
Non, pas de changement particulier pour le fonctionnement des armées, ni d'ailleurs pour les histoires de VSS, hein, les violences sexuelles et sexistes. Nous sommes à 17% de femmes. Nous sommes la quatrième armée la plus féminisée au monde. Nous avons besoin des femmes pour pouvoir effectuer les missions qui nous sont confiées. Le fait qu'il y en a permet de prendre en compte leurs compétences. Ça va permettre aussi peut-être de mettre fin à l'image d'une armée machiste, d'une armée d'hommes. Et la réalité, elle est là. Nous sommes une armée massivement féminisée.
Grégory Blanc, un dernier mot sur ce point, il nous reste 30 secondes.
Le problème, il est au niveau de l'état-major. Je prends juste l'organigramme de l'armée de terre. Une femme générale sur 80 messieurs. On a des messieurs blancs.
Si on 81 veut une armée, généraux en France, il y a une seule femme.
Une seule femme. C'est-à-dire que quand on regarde dans le rang, on a effectivement une armée féminisée. Mmh. Quand on est au niveau de la hiérarchie, ça n'est plus le cas. C'est ça qu'il faut interroger.
Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Merci aux auditeurs qui nous ont appelés et écrit aujourd'hui. 13h46. Notre feuilleton fait des allers-retours depuis lundi entre Lorraine et Luxembourg avec les frontaliers qui travaillent au Grand-Duché. 120 000 Lorrains font ce trajet chaque jour. Alors beaucoup vivent en Moselle-Nord, dans des communes près de la frontière, mais ils ne participent pas souvent à la vie de ces villes et villages. Alors pour les dynamiser, un festival, les Scènes au Bar, organise chaque année au mois de mars des concerts, des spectacles. La 22e édition vient de se terminer et notre reporter Manon Derdevé s'est glissé dans le public. Ça se passe au restaurant Le Remotel. Hôtel à Knutange.
Je m'appelle Gérard, je suis le président de l'association Polar sur la Ville et l'association Polar sur la Ville donc organise ce festival Scène au Bar tous les ans au mois de mars. C'est une vingtaine de spectacles dans des lieux inhabituels, c'est-à-dire les bars, pour des gens qui ne vont pas forcément au théâtre, qui n'ont pas forcément les moyens. C'est gratuit en plus, donc les gens viennent et puis une fois que c'est plein, on ferme. Et il y a juste un chapeau à la sortie qui tourne pour l'association, mais sinon c'est vraiment c'est du gratuit et puis c'est dans des lieux où il n'y a pas de théâtre habituellement.
L'idée, c'est de donner un peu de vie aux communes où il ne se passe plus grand-chose.
Absolument. Donner un peu de vie de la vallée de la Fène chez Thionville, hein, puisqu'on est là. Une place de théâtre, maintenant, ça coûte 40-50 euros. Donner aussi l'occasion à des gens de voir des spectacles en dehors de la télé. Puis, une convivialité aussi. Les gens se voient avant, discutent ensemble et tout. C'est un peu de chaleur, quoi. On a eu une personne, par exemple, qui nous a dit « J'allais jamais au spectacle. Et depuis que je suis allé à Scène au Bar il y a 10 ans, maintenant, je vais donner les spectacles quand je peux, quand c'est pas trop cher. Ben, ça fait chaud, ça fait plaisir. Et puis les gens, donc là, ils sont là depuis 2 heures, voilà, pour être sûr d'avoir une place. Cet après-midi, c'est sur la maladie d'Alzheimer, mais avec un aspect comique, mais intelligent, qui fait réfléchir et qui, en même temps, n'est pas pesant pour les gens.
Bonjour. Marie-Lou, j'aime beaucoup les spectacles parce qu'ils sont souvent d'excellente qualité. Et puis j'aime bien l'ambiance. C'est convivial, c'est chaleureux. Bah, regardez, il y a un monde fou. On vient tous les ans, on vient de plus en plus tôt parce qu'on ne trouve plus de place. Ici, on a quand même beaucoup d'endroits dortoirs, hein, il faut bien le dire. On a beaucoup d'endroits avec les frontaliers de petits villages ou de villes où il n'y a plus personne la journée. Ça appauvrit malgré tout la vie quotidienne et il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Donc là, c'est bien.
Bon, ben, bon spectacle.
Oui, si.
La salle, elle est pleine à craquer, là.
Pleine à craquer, les gens sont debout derrière. S'ils arrivent à voir un tout petit peu, ils sont contents. Bon.
Là, on va être combien ?
120.
Vous êtes obligé de refuser du monde ?
Oui, oui. C'est vrai qu'il manque la star.
Sophie ?
Je m'appelle Sophie Belvisi, j'ai bientôt 30 ans et je suis comédienne et j'habite à Lyon.
Je crois que ça va commencer.
Donc, je vous laisse avec cette Alzheimer. Bon après-midi.
Sophie, je suis la fille de Sylvane qui a une maladie apparentée à Alzheimer.
Waouh ! Oh, j'ai mis l'ambiance de malade !
Ça fait chaud au cœur que les gens se déplacent autant pour voir du spectacle. Ça prouve qu'ils ont envie, quoi. Ils ont envie de culture, soif de culture, ça fait trop plaisir.
Formidable, vraiment.
Vous l'avez trouvé comment, le spectacle ?
Ah bah exceptionnel. Ah oui, c'est un des plus beaux qu'on a vu depuis le début. Hein. Ah oui. On a beaucoup de chance que le festival existe.
Vous êtes contente ce soir ?
Très contente, très très.
Puis voilà, ça fait vivre un peu les cafés du coin et des chouettes moments de partage en fait.
Bravo, bravo, hein, Sophie, c'était super.
Une semaine dans leur vie avec un peu du groupe ABBA, on l'a reconnu derrière le micro de Manon d'Erdevé, réalisation Stéphane Ronxin, les 4 épisodes à retrouver sur le site de France Inter.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le jeudi, avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, vous intéressez donc à nos assiettes et aujourd'hui, vous avez un petit coup de blues.
À la salade, je suis malade, Jérôme. La semaine dernière, la revue 60 millions de consommateurs a révélé qu'une très grande majorité des salades que nous consommons en sachet contiennent des résidus de pesticides. On comprend pourquoi. Elles sont fragiles, sensibles à l'humidité. Les pucerons les dévorent et piquettent leurs feuilles de trous que nous n'aimons pas voir dans nos assiettes. Pour la rendre plus belle sous sa robe de plastique, la salade est donc bodybuildée. Un conseil, lavez-la pour évacuer un maximum de ces résidus, c'est efficace. Mais mangez-en, parce que la salade, Jérôme, c'est bon pour tout. Pour ses goûts variés, sa faible teneur en calories, et parce que c'est un aliment plutôt bon marché.
En consomme-t-on beaucoup ?
Un désamour s'installe, imperceptiblement. Selon une étude Kantar menée il y a 3 ans, la baisse de la consommation est de l'ordre de 10% sur 10 ans. On en produit 380 000 tonnes, 50 000 tonnes de moins qu'au début des années 2010. Mmh. La salade, c'est un peu la reléguée du repas. Elle accompagne, elle décore, mais elle n'est jamais au centre du jeu. Ce n'est pas une bête de scène et il y a peu de chefs pour l'encenser. Sauf, bien sûr, on garde le suspense jusqu'au bout, celui qui nous offre la recette du jour. Pourtant, il faut écouter cette famille de maraîchers un peu à part. Les Bastelica, installés en bio dans le Gers depuis 45 ans. Rudy, le fils, est un poète du monde champêtre. On l'écoute et c'est toute l'encyclopédie de Buffon qui défile dans nos oreilles. Ce que j'aime dans les salades, c'est le dur, l'amer, le piquant que l'on retrouve dans les plantes qui montent haut. Mais le secret, ce qui les rend merveilleuses aux yeux et au palais, c'est de les mélanger. En ce moment, je fais un mesclun de pissenlit, de roquettes, d'épinards, de plantains, d'oseilles rouges, vertes et argentées, de pousses de petits pois, d'agastache, de fenouil, de persil, de périlla au goût du cumin.
N'en jetez plus.
Je vous épargne l'énumération des 50 variétés de salades qui poussent chez les Bastelica. Pour partir chez Bras, à l'Aïole, sur le plateau de l'Aubrac, c'est ici qu'est né le gargouillou, l'une des recettes gastronomiques les plus incroyables. Une simple salade, jamais la même. Sébastien Bras jongle avec une multitude de pousses, comme le cresson de para venu du nord du Brésil, la pimprenelle, la silène enflée, les épaisses feuilles de ficoïdes. La salade, c'est un monument de fraîcheur, de légèreté, nous dit-il. J'aime les assaisonner d'une huile neutre dans laquelle j'ai fait infuser du thym serpolé.
Et c'est donc Marie-Luce, Sébastien Bras, qui nous offre la recette du jour.
Voici son assaisonnement pour une salade que, pour l'occasion, vous ne choisirez pas en sachet. Mélangez une pointe de couteau de moutarde en grain, une giclée de soja et une cuillère à café de miso fermenté, par exemple à base de lentilles. Tout ceci délayé, vous montez l'ensemble avec une huile neutre. Voici de la verdure pleine de caractère. À la salade, je suis d'un coup beaucoup moins malade.
Ça va mieux, on est rassuré. Merci à vous, Marie-Luce Ribaud. En direct de Bordeaux, de C'est la France et des salades. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est la chanteuse et comédienne Laurie Pester.
Connue d'abord sous son simple prénom Laurie. Laurie, c'est ta meilleure amie. Laurie, c'est la positive attitude. Laurie, c'est J'ai besoin d'amour, Jérôme. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, elle a réuni ses succès dans un double album Hyper Laurie, dont vient de paraître le premier volume. Et c'est Thriller qu'elle a souhaité que l'on écoute, chanson titre du sixième disque de Michael Jackson.
Bah à l'époque, il faisait des shows de dingue. C'était un des seuls à faire ça. Des clips, c'était pas des clips, c'était des films qui duraient un quart d'heure, une demi-heure, avec des réalisateurs de dingue, des histoires, des effets spéciaux. En fait, dès qu'il faisait quelque chose, il allait vraiment à fond dans tout. Voilà. Et c'est ça que j'aimais. La danse, le chant, les shows, les clips. Et je me souviens être dans le canapé, en train de regarder des clips vidéo. Et là, je tombe sur un cimetière, des gens qui sortent de la terre. Sauf que je devais avoir 3-4 ans, quoi. Et donc là, je prends un coussin, j'essaye de le mettre devant les yeux, mais en même temps, je suis tellement impressionnée par les chorégraphies, la chanson, j'ai envie de danser, mais en même temps, j'ai envie de m'enfuir tellement j'ai peur. Parce que le maquillage était bien fait, les effets spéciaux étaient dingues.
Il y avait des rires.
Et ouais, c'est ça, le oh, oh, oh. Donc ça a été un mélange d'émotions dans ma tête et dans mon corps, en fait. Et c'est par la suite, plusieurs années après, que j'ai revu le clip et j'ai fait oh, « mais ouais !» Et c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux devenir, c'est ça, je veux chanter, je veux danser, je veux faire des shows, je veux faire des trucs de dingue qu'on ne fait pas dans la vie, devenir un loup-garou. On se dit, mais ouais, en fait, c'est un super métier, ça.
Déjà plus de 40 ans, 1982 pour ce titre de Michael Jackson, Frédéric.
1982, l'année de la naissance de Laurie, qui, quand elle s'est lancée dans la chanson, rêvait, m'a-t-elle dit, de devenir une sorte de Michael Jackson au féminin.
J'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible, en tout cas. Quand je préparais une tournée, je regardais ses shows, je les analysais, les making-of, les répétitions. Je décortiquais tout. À quel moment il disait bonsoir, à quel moment il parlait au public, à quel moment il allait à droite, à quel moment il allait à gauche, à quel moment il faisait sa chorée avec les autres et tout. J'ai tout décortiqué à l'époque.
Est-ce que vous aviez des vidéos de ses concerts?
Ouais, j'avais des vidéos de ses concerts. Je regardais et j'analysais et j'essayais de voir ce qui marche, ce qui marche pas, ce que je pouvais l'intégrer dans mon spectacle et tout.
Et dans les spectacles que vous avez fait vous-même, il y avait vraiment des choses qui venaient des spectacles de Michael Jackson ou pas du coup?
J'ai rien copié, mais j'ai essayé d'adapter. Sur ma toute première tournée, j'avais des bidons avec du feu, j'avais de la pyrotechnie, et petit à petit j'ai commencé à mettre des tours de magie aussi, des apparitions, des disparitions. Je voulais vraiment que ce soit pas juste un concert, je voulais que les gens ils s'en prennent plein les oreilles et aussi plein les yeux.
Que ce soit du grand spectacle.
Exactement.
Comme c'était avec lui.
Comme c'était avec lui, voilà.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down.
Après, bon, c'est une personne qui est un peu vrillée. Et je me suis posé la question si j'allais en parler aujourd'hui.
À cause de ça ?
À cause de ça.
Et ces travers dégueulasses.
Ouais.
Est-ce que ça change l'affection et l'admiration que vous lui portiez ?
Bah, c'est sûr que ça fait quelque chose quand même. Et je comprends pas ces gens-là en fait. Alors après, il y en a, ils vont dire oui, c'est parce qu'ils sont complètement.
Torturés,
merci, qu'ils arrivent à faire des œuvres comme ci, comme ça. Ouais, mais ok, sois torturé, mais torture pas les autres dans ces cas-là. Voilà.
Et c'est pour ça que vous l'écoutez moins.
Ouais. Je l'écoute quasiment plus, mais cette chanson-là, c'est aussi ce qui a fait l'artiste que je suis devenue. Donc là, je préfère parler de la chanson que de Michael Jackson. Mais c'est compliqué. Voilà.
Personne n'a oublié ce rire. Michael Jackson, Thriller. C'était donc Frédéric Le Choix de Laurie.
Laurie dont vous pouvez retrouver les tubes dans le double album Hyper Laurie. Et puis, elle vient de sortir chez Robert Laffont un livre dans lequel elle raconte son combat contre l'endométriose. Son titre, c'est Revivre.
Merci Frédéric.